de Charles Ferdinand Ramuse. Passage du poète. Chapitre 1. Sa hotte a fait clair dans les vignes le jour où il est venu. Il avait dit qu'il s'appelait Besson. Il était vanier. L'affaire a été alors seulement qu'on n'était pas très sûr qu'il y aurait suffisamment d'ouvrage pour lui dans le pays, comme on lui a dit, un jour qu'il était venu au renseignement. Et les gens à qui il s'était adressé secouaient la tête. On ne croit pas. Ils ont dit encore, « Vous savez, nous autres, dans le vignoble, ce qu'il nous faut, c'est le bois plein. L'osier, ça laisse passer. L'osier, c'est fait pour ceux qui récoltent solide. » Et il avait ri avec ses yeux clairs au-dessus de sa fine barbe blanche frisottée. Puis, « Ça, c'est vrai. » Puis, « Mais ça ne fait rien. » Ayant expliqué qu'il ne comptait rester dans le pays que quelques mois, et que la situation du village à Mimont lui paraissait commode pour ses tournées, parce qu'il allait l'après-midi vendre sa marchandise, et il y avait ici la pente du mont et le village se trouve juste dans le milieu. Alors, vous comprenez, je n'aurai chaque fois ni trop à monter, ni trop à descendre, parce que dans un métier comme le mien, il faut aller chercher la clientèle à domicile. On lui a dit, si vous croyez. Il est arrivé quelques jours plus tard. C'était à la fin de mars. Il arriva à pied avec sa grande hotte. On avait fini de tailler la vigne. On commençait par-ci, par-là, les fossoyages. Il vint, ayant pris la côte de flanc par les rares sentiers qu'il y a. Et la plupart du temps, il faut suivre le dessus des murs, et on saute d'un mur à l'autre. Il vint de l'ouest. Il venait. Il faisait gris. Il venait avec sa grande hotte blanche. Il faisait gris dans le ciel, gris sur le lac, gris contre le mont. C'était une hotte toute neuve, et dessus étaient empilées ses corbeilles et ses paniers, tandis qu'il avait mis ses affaires dedans, comme on voyait, parce que, par les trous des mailles, on voyait qu'il y avait dans la hotte des habits pliés et du linge. Et il avait un bâton. Et donc il venant de l'ouest, à travers les vignes. Un jour de la fin de mars, quand tout était en terre sèche. Le ciel est en terre sèche, le lac est en terre sèche, et à côté des tas d'échalas couchés encore entre les souches nues, à peine si la mauvaise herbe vient varier un peu cette couleur. Heureusement qu'il a été là, bien qu'il ne pût pas se voir lui-même, mais nous autres, on l'a vu venir, et on le voyait venir de très loin. On s'est demandé « Qu'est-ce que c'est ?» On aurait dit une fumée de locomotive. Il y a ici deux lignes de chemin de fer, dont l'une longe le bord du lac, et l'autre prend le vignoble en travers. Alors, comme quand la locomotive qu'on ne voit pas souffle en l'air de distance en distance s'ébouffer, ou bien les vapeurs qui s'élèvent quand, après une averse, le gros soleil donne sur la terre. Un flocon de brouillard, de la laine de mouton. On ne voyait pas l'homme qui était devant et dessous, étant de trop petite dimension, trop étroit, sans hauteur, tellement la hotte était haute, et tellement il y avait, attaché dessus, de ses corbeilles, de ses paniers, les uns aux autres par des ficelles, qui y venaient. Et l'homme était gris, et il venait sous sa colonne blanche, et on le regardait venir de loin en se demandant « Qu'est-ce que c'est ?» Parce que tout à coup, il a été dans tout ce gris quelque chose qui éclairait, faisant une couleur brillante, et cette couleur venait comme quand un peu de brouillard se promène, très lentement poussé vers vous. Pourtant, il n'y avait pas de vent, ou à peine. On se mouillait le doigt. Non, il n'y avait pas de vent. Le vent qui vient de l'ouest s'appelle le joran. Ce fut porté vers nous et descendu vers nous avec lenteur de mur en mur, on ne sait pas bien comment, et de l'un à l'autre de tous ces casiers qui sont l'un au-dessus de l'autre, comme des commencements de maisons ou des restes de maisons parce que le haut aurait brûlé. Ça est venu le long des murs, et puis ça faisait un angle. Ça allait de haut en bas, et puis ça allait de gauche à droite, et puis ça allait de nouveau de haut en bas. Il faisait terriblement gris, un temps sans montagne. Du côté de l'eau, on voyait l'eau rejointe au ciel. Et il descend vers elle, et elle monte vers lui. Et de notre côté à nous, le côté habité, de même. Et le côté qu'on peut utiliser et qui produit, car là, c'était le mont, et là, c'était tout le vignoble. Mais le haut en était caché, parce que le ciel pendait dessus. Alors, là-dedans, rien que cette couleur, rien que cette belle apparition blanche vers laquelle on s'était tourné, et un assez longtemps, on n'a pas compris ce que c'était. Puis, peu à peu, elle a pris forme. On a vu l'homme, tout petit, lui dessous et devant, tout gris, elle dessus et en arrière et tout autour, comme quand la fourmi porte son œuf trop gros pour elle. Mais il n'a pas semblé que cette charge le gênait quand il fut venu et est entré dans la ruelle, et il a éclairé la ruelle. Parce qu'alors on lui a dit « Est-ce lourd ?» Mais il riait, bien que la construction montât jusqu'au premier étage des maisons, et à peine si elle pouvait passer, tant elle était large. Et sur la place, il a ôté sa hotte, et il vous a fait voir. On empoignait la hotte par les courroies, tandis que lui la maintenait en équilibre. Et en effet, on s'étonnait. Le jour qu'il est venu, et il est venu à travers les vignes, et on le regardait venir, quand il faisait gris partout dans les vignes. Il se tenait sur le côté sud de la place, entre les petits platanes taillés, et les petits platanes étaient éclairés d'en dessous. Il se tenait là, devant un mur bas. Il disait « Voilà qui fera mon affaire ». C'est une place pas beaucoup plus grande qu'une grande chambre, parce que dans le vignoble, la terre a trop de valeur. Et Besson s'y est tenu un instant encore, parce que plusieurs personnes l'avaient rejoint. La hotte continuait à faire clair pendant qu'il parlait, et on lui parlait. Le soir était venu, c'était dans l'obscurité. Les ruelles s'étaient mises à fumer de la nuit vers vous par les deux ou trois ouvertures carrées, comme quand une cheminée fume. Et dans cette nuit, alors, il y a eu ce point de plus en plus clair, de plus en plus blanc. Tandis que les hommes rentraient du travail en traînant les pieds, et ils s'arrêtaient les uns après les autres autour de la hotte en faisant un groupe. De nouveau, on ne savait plus ce qu'on voyait au milieu d'eux et au-dessus. Comme s'ils se tenaient autour d'un feu qui fume blanc, comme quand la locomotive lâche sa vapeur, comme quand le gros soleil d'été, après une averse, donne sur la terre. Puis on a vu la tache claire s'éloigner, pendant que le groupe des hommes se défaisait. Chapitre 2. Alors voilà que, le lendemain, ils sont sortis un à un de chez eux, mal réveillés à la fois de leur nuit et du long hiver. Ils continuaient de faire gris, et eux avaient d'abord à secouer d'eux la double fatigue que c'est d'avoir dormi trop longtemps et de n'avoir rien fait, ou pas grand-chose, pendant 4 ou 5 mois. Quand il gèle, il pleut, il neige et il gèle. 4 ou 5 mois où on n'a guère d'autre travail ici que celui de remonter la terre, mais c'est seulement quand il fait beau temps. À part quoi, il y a bien aussi la fabrication des échalas ou soigner le vin, mais c'est tout. Ils passaient l'un après l'autre sur la place, allant au travail avec la hotte et dans la hotte le fossoir dont on voyait sortir le manche par le bout. Ils allaient lentement, chaussés de gros souliers à clous, ayant des jambières de cuir, quelques-uns des guêtres de toile qui boutonnaient sur le côté. Les femmes, qui avaient encore le ménage à faire et à préparer les enfants pour l'école, ne devaient les aller rejoindre que plus tard. Et donc le mari est seul, et il part seul, Ou bien le père et le fils sont ensemble, mais ils allaient sans rien se dire, et c'est seulement qu'on y est forcé, parce qu'il nous a été dit dans les commencements du temps, « Vous travaillerez ». Alors, chaque soir, on remonte son réveil matin, dont on avance la sonnerie à mesure que les jours grandissent, et il vous tire hors de vos draps. On sort une jambe, mais c'est dur, quand le jour lui-même n'est pas bien réveillé, la saison non plus, sous ses brumes, dans le moisi de l'air, ce brouillard, et on voit les averses qui traînent sur le lac, comme des toiles d'araignée. Un à un, chacun pour soi. Ils sont montés pourtant les escaliers des vignes, avec la hotte, avec leurs jambières de cuir, dans leurs gros gilets de chasse en laine brune, leurs pipes de terre à la bouche. Ils sont montés, ensuite ils ont été dans la dispersion. Gris et gris, pas un bruit d'abord, silence partout. Quelquefois, le train qui va passer se fait entendre longtemps d'avance par l'écho qu'il éveille dans la concavité du mont. Puis il tait sa propre rumeur, étant passé, et parce qu'il est passé déjà, et tout retombe. Ce qu'il y a, la seule chose qu'il y ait, c'est qu'on est là, et on ne peut compter que sur soi, devant tant de mètres sur tant, devant une longueur de terre, devant une largeur de terre, et on ne peut compter que sur soi. Ils étaient sortis de chez eux, ils étaient descendus le perron. L'odeur du café à la chicorée leur a couru après un moment par l'ouverture de la porte, puis ils ont trouvé le froid. On entend pleurer un enfant, la mère s'est fâchée. Ils montent, ils sont là-haut. Ils se sont mis au travail, et c'est dur, mais il faut. Cependant, Besson était sorti lui aussi, et était venu s'installer entre deux platanes, sur le mur où il avait plié en quatre une toile à sac. Et ainsi, quand les enfants partirent pour l'école, il était déjà à la besogne. Ils n'eurent pas le temps de s'arrêter pour le regarder travailler, parce que la cloche sonnait. Les enfants courent sur le pavé avec leurs semelles de bois, les plus petits ont une ardoise sous le bras. Au bout d'une ficelle, pend une éponge. Ils ont aussi des petits sacs brodés où on voit un ramoneur avec son échelle. À quelques-uns, leurs épaules sont prises dans un gros châle tricoté à bordure qui se noue dans le dos. Les filles ont des jaquettes de couleur sur leur tablier. Les garçons, des bonnets en poil de lapin et des culottes trop longues. Ensuite, les fenêtres se sont ouvertes. On y a vu paraître la literie qu'on aère, les gros plumiers recouverts d'une étoffe à carreaux bleus et blancs, rouges et blancs, l'oreiller où la tête de l'homme s'est posée. Les femmes les tapotent de la main pour les regonfler, puis les posent dans l'ouverture de la fenêtre qui finit par être bouchée. Là où la tête de l'homme s'est posée pour la nuit. Et elle, elle a mis la sienne tout à côté, et il y a eu sur l'oreiller deux têtes. Et c'est comme ça que ça va. Il n'y a plus de fenêtre. On a entendu le bruit des balais. Lui, pendant ce temps, prenait un brin d'osier, puis prenait un autre brin d'osier, la carcasse du panier étant faite de jets plus forts, et il la tenait entre ses genoux, où il la faisait tourner à mesure. Et de nouveau, une chose claire naissait là. Une chose claire est venue, tandis que les mains, au-dessus, faisaient beaucoup de petits signes, comme dans le langage des sourds-muets. Langage qui a été compris quand même, semble-t-il. Langage qui a été entendu. Il s'est mis à faire plus clair. Il s'est mis à faire une lumière couleur d'osier autour du panier. Et c'est quand l'osier a été dépouillé de son écorce jaune ou rouge, et il a été mis à nu, et on le met trempé dans l'eau. Une première cheminée fume. Les moineaux se sont d'abord annoncés sur le bord des toits par des cris, se tenant posés dans les gouttières, puis ils ont été comme quand l'averse s'abat. Ils sont tombés à grosses gouttes sur les platanes. Il y en a eu quelques-uns qui ont passé entre les branches. Ils se sont avancés jusqu'entre les pieds de Besson, parce qu'ils n'ont pas peur, parce qu'ils ont compris. Et, tournant la tête de côté pour le regarder, avec un seul œil, ils se rassurent. Là-haut, la grosse cheminée fume bleu. À ce moment, Congo arrive. Il ne fait presque point de bruit dans ses pantoufles de lisière. On l'a seulement entendu tout sauter et cracher dans la ruelle avant qu'il se fût montré. Congo, qui s'avance en traînant les pieds, avec une barbe de 15 jours sous un chapeau de feutre devenu rouge, une barbe sur sa figure comme de la moisissure de pain et des mains roses aux ongles blancs. Et généralement, il se méfie du monde. Il ne veut connaître personne. Sitôt qu'il aperçoit quelqu'un, il fait un détour. On aurait donc été étonné si on l'avait vu s'avancer, continuer à s'avancer, comme il a fait, tenant ses mains l'une sur l'autre, tenant l'une sur l'autre ses grosses mains aux ongles blancs, tandis qu'il pousse devant lui ses semelles à petits coups sans les lever, comme si elles étaient à roulette. Il marmonne quelque chose. Il marmonne encore quelque chose. Il a dit « À présent, c'est ces draps de lit. » C'en est un qui est tombé à la charge de sa commune, et chez nous, on appartient à une commune toujours la même, de père en fils, de génération en génération, à travers les siècles et le temps, où qu'on puisse aller à travers le monde. Et il y a une loi qui oblige les communes à entretenir ceux de leurs ressortissants qui tombent dans le besoin. Alors les communes les font revenir sur leur territoire où elles les mettent en pension, de façon que l'argent n'aille pas s'employer ailleurs. Les communes cherchent tout naturellement à faire travailler leur argent sur place, disant à ceux qui font appel à elles « Rentrez d'abord !» Et ils y sont bien obligés. Seulement, Congo n'était pas content. Cette fois, c'est les draps de lit. La fois d'avant, c'était la soupe. On l'avait changé de pension. Mais, comprenez-vous ça? Il ne me donne qu'un drap. C'est ce qu'il a dit. Rien qu'un drap de lit. Un drap au lieu de deux. Alors, on ne peut pas savoir si ce drap doit aller dessus ou dessous. C'est ce qu'il a dit aussi, parce qu'il s'était approché encore tout en parlant. Et lui non plus n'a pas fait peur aux moineaux, qui se sont seulement écartés devant lui. Il a mis un pied là, puis l'autre pied tout à côté. Son pantalon tombe en tire-bouchonnant sur ses pantoufles. Ses mains, plus haut, mises l'une sur l'autre, font penser à une grosse pivoine rose. Les fumées à présent étaient trois grosses, faites de beaucoup de petites. Elles ont d'abord penché et d'abord ont hésité, flottant de côté et d'autre. À présent, elles montent tout droit. À présent, elles sont comme trois colonnes de verre et on voit le ciel à travers, qui est blanc, qui n'est plus gris. Et Congo a dit « Mais on n'a pas pu comprendre. Tellement les moineaux, dans cet instant, ont fait de vacarme, s'étant roulés par terre les uns sur les autres, à cause d'une bataille qu'ils ont eue. Et en même temps, tout autour de la place, les couvertures qu'on secoue des deux mains claquent aux fenêtres, lesquelles ont été débouchées, parce que les draps de lit sont dessus, les couvertures sont dessous. Puis, plus dessous encore, viennent les oreillers posés sur le plumier. Il tient ses mains contre sa ceinture. Il secouait sa tête qui était comme un morceau de pain oublié longtemps dans une armoire. Il a tenu tout un discours. L'ayant tenu, il a été content. Il regarde à présent ses autres mains qui allaient vite, allaient encore, avec les signes de leurs doigts comme pour des choses à dire, au-dessus du tablier vert qui s'enfonce entre les genoux. Une porte s'ouvre, une femme descend le perron, une femme part pour la vigne. Une femme a pris son racloir, parce qu'elle, leur travail, c'est ses raclages, et part. Parce qu'il va falloir se dépêcher si le beau vient, comme il semble bien que ça va être le cas. Elle lève la tête, alors on a vu le dessous de son menton. Tenant un instant les yeux fixés sur le ciel, où un va-et-vient continuel de petits nuages se fait, comme si on déplaçait des mottes à la pelle, et, « Dépêchons-nous !» se dit-elle, donnant avec le haut de son corps un coup en avant. « Dépêchons-nous !» Raide encore sous le corsage et la jupe, devant la ruelle qui monte, et quand les souliers qu'on vient de mettre sont comme du caillou autour du pied. Gilles Hiéron, lui, rentrait déjà. Il s'est tenu devant Besson un moment, le regardant écrire en l'air avec ses doigts, puis... « Est-ce que ça vous rapporte ?»« Ah bon, tant mieux pour vous. » Il hausse les épaules. Congo est toujours à la même place. Chapitre 3. Gilles Hiéron a continué son chemin, qui n'a plus été très long. Il est entré dans la cuisine. Il n'y a personne dans la cuisine. Il entre dans la cuisine et pousse du pied sa hotte, qu'il a ôtée de dessus son dos en jurant. Elle tombe sur le côté. Il dit « Tant pis, reste où tu es ». Il jure de nouveau. Et puis il a été s'asseoir sur un tabouret, le dos à la table. Et puis il se lève, il a été se mettre à la fenêtre. On voit à travers les carreaux le brouillard qui n'est pas encore levé sur le lac. Alors l'eau semble sans limite, avec toute une terre qui viendrait d'en sortir, comme au commencement du monde, à cause des taches qu'il y a dessus, qui font des fleuves, des lagunes, des estuaires, des presqu'îles. Mais Gilles Hiéron ne regarde pas. Il hausse les épaules, il est revenu s'asseoir. Il se lève. Il est monté au premier étage. Et il y a eu le grand bruit qu'il fait parce qu'il traîne les pieds sur le plancher. Il redescend. La cuisine est sans feu. Il prend dans l'armoire le pain. Le pain et le fromage, et c'est tout, parce qu'on n'a plus de soupe, parce que c'est les femmes qui font la soupe. Rien que du pain et que du fromage, mais c'est encore plus qu'il ne lui en faut, parce qu'il a vu qu'il n'a pas faim. Il avait ouvert la grande lame de son couteau, puis repousse le plat du revers de la main, et se lève encore, et va un petit bout, revient. Regardant la table, le fourneau, la batterie de cuisine pendue au mur, et qu'est-ce que ça peut valoir? Essayons d'évaluer un à un les objets, puis ça le fatigue. D'ailleurs, ils doivent se vendre en bloc. Il prend dans le tiroir de la table l'indicateur des chemins de fer pour la 10e fois. Il n'y croit toujours pas. Puis il a bien fallu. Il a relevé les yeux. Il se reheurte à ce grand silence, et le silence lui a crié que oui, quand il se remet comme ça à écouter en dehors de lui, et écoute dans l'air où l'aîné de ses enfants, une fille, traînait sa voiture à poupée qui avait des roues en bois plein, et le plus petit courait derrière en criant, et le feu de sarment dans le fourneau, une fois que le tirage s'était établi, chantait comme l'harmonium à l'église. Alors, tant pis. Il recommence à hausser les épaules, puis ses épaules sont venues en bas, comme un talus gelé quand le soleil donne dessus. S'étant assis de nouveau, les mains sur les genoux, puis elles glissent le long de ses genoux, tombent de chaque côté de lui, pendent. Et il commence à suivre le mouvement avec toute sa personne, comme quand on s'endort. Mais le mouvement qu'il fait le réveille. Il se redresse. Il donne un coup de poing sur la table. Il dit « C'est pas possible !» Et de nouveau, le fourneau, qui se tait, lui répond « Que oui, que oui !» Et la table pas servie, le carreau pas lavé, les vitres pas frottées, et le silence aussi « Que oui !» Et sa colère passe, parce qu'elle est bien trop petite en face de ça, n'est-ce pas? Alors, on entre dans un état dont on voit seulement qu'on ne va pas pouvoir le supporter longtemps. Pourquoi, de nouveau, il se lève. Il n'hésite plus. Il va au clou où pend la grosse clé, il prend la grosse clé rouillée, il sort dans la ruelle. Il y a une porte verte qui est au bas d'un escalier de 7 ou 8 marches, par où on descend sous la terre quand on est mal sur la terre. Et tout à coup, on sent venir contre soi la bonne tiédeur qui règne là, une espèce de saison non terrestre et toujours la même, et toujours le même climat qu'on y tient prisonnier par le moyen des voûtes. Une nuit qui n'est dissipée que quand l'homme veut, et il vient. Il vient avec sa lumière à lui, son soleil à lui, sa lune à lui. Alors toutes les autres choses sont quittées. On quitte les choses de là-haut, qui se tiennent là-haut sous l'éclairage de l'injustice et de l'erreur, et de la méchanceté. Les choses de là-haut, où tout change continuellement. Et ici, pas. Et ici, rien. Ou quoi ? Il prend premièrement soin de refermer la porte, bien exactement, et rien ne pourra plus entrer, pas le plus petit gramme de jour, se refabriquant une nuit complète. Après quoi il a frotté une allumette, qui a été un point vert, comme si une très lointaine étoile se levait à un nouveau ciel. Puis elle s'avance avec un feu rouge qu'elle communique. Un horizon à nous, occupé seulement par des choses à nous. Il regarde, et le devant des gros tonneaux ovales est à sa gauche, comme à sa droite, sous la voûte, où quand il lève la main, c'est encore sa main qui y est. Parce que le voilà alors qui tend le bras, après avoir rempli son verre, vidé son verre. Il l'a vidé tout d'un coup, puis le remplit de nouveau, faisant aller de côté la manette du petit robinet de cuivre qu'ils appellent Guillon. Et dans le verre se tient la vérité. « J'ai tout ce qu'il faut, moi, ici. Alors, là-haut, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Qu'ils y fassent ce qu'ils veulent de moi. » Tendant le bras. « Je suis tranquille, je leur ai échappé. » Et il boit. Il remplit son verre et il boit. « Je me fous de vous. » Il tend le bras. « Et je me fous de toi. » Il parle à sa femme à présent, à sa femme qui est partie la semaine d'avant avec les deux enfants. « Et vendez-moi seulement là-haut, si vous voulez. Ça ne compte pas, ça ne compte plus. » Il boit et il voit ce qui compte. « Parce que j'ai quitté ce monde-là, heureusement. » Il boit. Il a été prendre dans un coin un tabouret. Il regarde cet autre monde venir. Chapitre 4. Alors il y a eu un petit orage avec deux ou trois coups de tonnerre. Le fond du lac a été longtemps occupé par des nuages posés l'un au-dessus de l'autre comme des bancs pour s'asseoir. Un coup de vent les fait venir en bas. Il y a eu un ciel clair contre lequel a été seulement dressée l'échelle d'une grosse averse. Puis elle s'avance et tout se brouille, tandis que la terre change de couleur. Et c'est son tour de changer de couleur. On ne sait jamais. Tout le temps, d'avril en octobre, ils tiennent la tête levée. Là-haut est leur véritable banque. Là-haut, ils ont placé leur capital. Depuis le commencement d'avril et jusqu'après les vendanges, ce qui fait 7 mois, jour après jour, et tout le long du jour, et dès qu'ils sont debout, et encore avant de se mettre au lit, il regarde là-haut, vers le temps qu'il va faire. Car il se fait sans eux le temps, et bien souvent même contre eux, et ils ne peuvent rien y changer. Alors ils ont appris à obéir, mais ont appris aussi à être attentifs et à lire les signes qui sont écrits sur cette page vite tournée, à ce ciel qui est comme un livre, qui aurait tellement de pages que la même ne se représenterait jamais deux fois. Et tantôt à un bout d'elle, tantôt à l'autre bout, tantôt dans le haut, tantôt dans le bas. Le tout petit mot d'un nuage qui est apparu s'en va. La ligne écrite en gris du brouillard traînant à mi-mont, la coloration d'un coucher de soleil, quand la lune a une couronne comme une mariée, et sur la terre aussi, les signes. La limace qui sort, l'araignée qui tisse sa toile, les temps qui sont méchants, l'hirondelle qui vole bas. L'escalier des nuages a été détruit tout d'un coup. Il a plu, il a fait froid. Il rallume les poêles de faïence ronds qui ont des cercles comme des tonneaux. Il regarde de derrière les carreaux la terre des vignes noircir sous l'averse. Et puis, il fait beau. Il fait chaud. La montagne, redevenue blanche, brille au travers de la vitre de l'air bien lavé, semblant s'approcher de vous avec ses deux couleurs. Il y a eu un lac de deux couleurs aussi, un lac qui est bleu avec des veines blanches. Le mur fendu d'un tout petit jardin potager pend dessus, avec l'angle d'une dépendance où il y a le pressoir et un appartement pour le vigneron, avec trois fenêtres à contrevent vert, tenant mal dans leurs gonds forcés. Pendant ce temps, Besson est toujours sur la place, faisant aller ses mains comme quand on joue à pigeon vol. C'était l'heure où les hommes rentrent du travail. Ils lui ont parlé un moment, pendant que lui levait vers eux, de dessous son chapeau et au-dessus de sa barbe frisée, deux petits yeux qui étaient clairs à cause de la peau foncée. Midi a sonné, il se lève. Lui aussi a été manger la soupe, ce que tout le monde faisait, sans pourtant qu'on entendît encore le bruit des cuillères contre les assiettes, comme plus tard dans la saison, quand on tient les fenêtres ouvertes. Le soleil s'était caché de nouveau. Ils repartent au travail vers les 1 heure. Bovard est entré dans la chambre de son garçon. Il lui a dit « Comment est-ce que ça va ?» Malheureusement, ça n'allait pas. On l'a vu, le pauvre, s'asseoir difficilement sur le lit, tenant la main à plat sur sa poitrine, et de sa bouche entr'ouverte sortait une petite toux qui ne voulait jamais venir dehors avec toute sa racine. Alors elle repoussait toujours. Bovard a dit à son fils « Ne bouge pas, reste bien tranquille, je n'ai pas besoin de toi. » Et il est parti seul pour sa vigne, ayant eu 3 fils, et 2 sont loin, et le 3e pour le moment est comme s'il n'était pas là. De sorte que ce matin, il a été seul à travailler, et cet après-midi encore, il va être seul, comme il a vu, ayant craché quand même dans ses mains et empoigné son fossoir. Dès les 1 heure, Bovard est retourné seul à sa vigne, qui se trouve sur un de ces promontoires que le mont projette par places, surplombant la route et le lac. Sur son socle de pierre et de terre, il y a eu quand même, et dès les 1 heure, Bovard. Et Bovard, avec son fossoir, décrit un cercle dans l'air. Sur son socle, à 100 mètres au-dessus de l'eau, dans le ciel, contre une montagne bleue et blanche, et aussi grand que la montagne. Et à présent, c'est le travail de retourner, après qu'on a taillé avec le sécateur et raclé avec le racloir, parce que le soleil est déjà chaud, et on voit les bois qui pleurent et se mouillent, leur écorce toute humide subissant un changement de couleur au-dessus de la corne, tandis qu'à la partie taillée, la goutte qui est en train de se former brille en petits feux, blanc, rouge, jaune, bleu, comme des colliers de dames. Bovard y va quand même, tant qu'il peut, amenant à lui la terre qui vient dehors d'un seul bloc, tellement elle est forte et dure. Puis, se baissant, il prend un échalas qu'il enfonce ensuite avec le dos du fossoir. Entre les souches, qui sont encore comme mortes sous leur mousse, stériles aux yeux, arides, seulement... Regardez-y de plus près, parce qu'alors, à leur surface, et en haut de la vieille écorce craquelée, des 2 côtés du bois qui pleure, un premier bouton s'est formé, tout cotonneux et sec encore. Mais il va se développer, il va devenir comme de la chair, s'ouvrant chaque jour un peu plus, parce qu'une poussée se fait. Et jusque dans l'ossement mort, il y a qui veille, quand même des forces de résurrection. Et c'est comme quand un tuyau crève et le jet jaillit dehors. Les grands haussarements, chaque année refaits, chaque année retranchés par l'homme, mis en fagot par lui et emportés, puis redemandés par lui à la terre qui les redonne. Mais il faut qu'on l'y aide, comme Bovard fait, tant qu'il peut. Retourner la terre, la fumer, racler, nettoyer, car rien ne vous est donné qu'on ne donne. C'est la loi, comme se dit Bovard, pour s'encourager. Il va tant qu'il peut sur sa bosse, bien qu'il soit seul. Mais il s'est dit, on travaillera double. Il fait encore monter son fossoir, il le fait descendre, traçant un grand demi-cercle brillant contre le ciel, puis la montagne. Et de nouveau, il prend un échalas. Il ne s'est arrêté un moment que pour regarder passer le train de 1h22. Ça est né de l'autre côté du golfe, entre une grande maison blanche qu'il y a là et l'eau, n'étant tout d'abord qu'un point noir qui est venu se mettre sous une grosse fumée grise. C'est d'abord, vu de face, ce n'est qu'un point. Puis, à mesure que ça prend le tournant dans la concavité du golfe, ça se déploie et ça s'allonge, suivant si exactement la rive qu'on dirait que c'est un morceau d'aile qui vient. Bovard a mis les mains autour du manche et de son fossoir, tournant le dos au mont et à la terre. Il regarde vers là-bas. Il ramène ses yeux à ses pieds, dans la quantité même que ça vient. Et maintenant, c'est juste au-dessous de lui. Et maintenant, on dirait un ver noir, une grosse longue chenille à la peau nue qui se traînerait sur le ventre avec ses anneaux ayant une corne de fumée. En marge du bleu de l'eau, dans cette couleur de feuilles sèches qui est encore la couleur qu'ont les vignes, avec les petites colonnes noires du fumier dressées par-ci par-là entre les souches, juste sous les pieds de Bovard. Puis on a entendu le grincement des freins. Là, en effet, est la station avec ses deux quais gravelés et sa petite bâtisse de bois peinte à l'huile sous un toit d'ardoise. Et Bovard, les mains autour du manche de son fossoir, continue de regarder, à cause du monde qui attend là. Et il y a des personnes en retard qui dégringolent encore le sentier. Des demoiselles sténodactylographes, des commis de banque, des employés de commerce. Ceux dont la vie n'a pas voulu, ou qui n'ont pas voulu d'elle. Quelques écoliers aussi, garçons et filles, avec leurs serviettes. Lui, là-haut, il regarde. Bovard, les mains autour du manche du fossoir, regarde d'en dessus les changements du monde, lui qui ne change pas. Étant de ceux qui n'ont jamais changé, étant infidèle, tandis qu'on entend le conducteur crier « Prêt !» Étant l'homme d'un ouvrage toujours le même, étant l'homme qui est sur le même point de la terre d'un bout à l'autre de l'année, d'un bout à l'autre de la vie, et immobile quand tout passe, tout se déplace, tout se modifie. Les habitudes, les façons de se mettre et de se tenir, les façons de dire, les mœurs, les métiers. Lui, toujours au même métier, à un métier toujours le même depuis les plus vieux temps, dans les mêmes lieux, devant la même eau, sous le même ciel, du matin au soir et de jour en jour. Alors, il laisse à présent s'en aller le train, dont la locomotive a soufflé avec bruit 3 ou 4 fois de suite, puis les chaînes d'attelage craquent en se tendant. Et ce qui doit s'en aller s'en va, ce qui est mobile redevient mobile. Un morceau de rivage inutile quitte le rivage et a pris bientôt de la vitesse, parce que c'est une chose à quoi la vitesse peut servir. Bovard crache dans ses mains. Il lève de nouveau l'outil qu'il porte au-dessus de sa tête, il l'abat, il le lève, il l'abat, il le lève encore, seulement cette fois l'outil s'est arrêté. S'il n'y a personne après vous, personne qui sorte de vous, si personne n'est là pour vous continuer, s'ils s'en vont tous ainsi, il se dit, d'une façon ou de l'autre, s'ils s'en vont et s'ils m'abandonnent. Une seule chose, toujours la même, dans le même lieu. Alors, si on s'était trompé, parce qu'on croyait à son travail, mais peut-être qu'il vous a menti. Si c'était une punition, et les autres vont courir le monde. C'est pourquoi il garde son outil levé, réfléchissant, puis il l'abaisse à vide devant lui. Et, tourné de nouveau vers la pente qui est sa part, il ne sait plus. Vers la terre, à quoi on s'est condamné, tandis que d'autres ont la distance, ont toute la place qu'il faut pour des différences dans les choses, entre lesquelles on peut choisir, et on va à l'une, puis on la quitte, et on va à l'autre. Justement, Besson venait de partir pour sa tournée. Mais parce que Bovard tenait la tête baissée, Bovard ne l'a pas vu passer sur la route. De nouveau le temps gris qu'il faisait le jour où Besson est venu. Il va au-dessus du mur gris, contre un autre mur gris, supportant un carré de terre grise. Et il y a tous ces carrés de terre qu'on voit. Et c'est tout ce qu'on voit. Et lui, Bovard, n'a pas vu le vanier, qui a été pourtant la seule chose claire. Quand de nouveau il y a eu les paniers, de nouveau il y a l'entassement des paniers et des corbeilles, beau blanc, en osier nouvellement écorcé, frais à voir. Il monte la route, il s'éloigne, il est caché tout entier par la hotte, parce qu'il se montre de dos. Et une fumée de nouveau, un peu de vapeur, une brume blanche, un flocon de laine de mouton. Ça s'évapore, ça diminue, ça monte, ça se rapetisse. C'est comme quand, dans l'air froid, la laine vous sort de la bouche. Et puis, ça a été à demi masqué par un buisson, Besson étant à présent au-dessus des vignes. Il est sur une pente d'herbe parsemée de buissons de ronces, sous une espèce de falaise, portant le ciel comme un plafond de chambre. Et déjà la colonne blanche touche le plafond de la chambre. Quand il s'en va en tournée comme ça dans le pays de la derrière où les eaux ont une autre pente, et sitôt la crête passée, se tourne vers le pôle opposé. Alors, immédiatement, tout change, parce qu'il fait noir, il fait étroit, il fait fermé, et on est parmi des forêts dans lesquelles, par-ci par-là, on a découpé des carrés, et au milieu est un village. Il a été dans ces villages, et d'un de ces villages à l'autre, faisant son métier, vendant ses paniers. À 4 heures, il s'est assis sans rien dire à une table dans un coin, sous un hangar où il y avait un jeu de quilles, et les hommes avaient aligné leurs verres sur une planche faite exprès, placée au-dessus de l'endroit d'où il faisait partir la boule. Et il faisait partir la boule, chacun son tour, et puis vidaient leurs verres, et lui regardaient. Entre les poutres entrecroisées, contre du brouillard, celui-ci a baissé la tête, comme le taureau qui va donner un coup de corne, et il était noir contre le brouillard. Pendant que le brouillard venait, il baisse la tête en même temps qu'il avance le genou gauche, pliant la jambe, et en même temps il tend en arrière le bras droit, pendant que les autres se tiennent debout et regardent. Alors, toute l'artillerie des quilles au bout de la piste a éclaté. Et Besson regarde, et il a bu ses 3 décis dans un coin à une table, puis il est parti. Est allé plus loin, a été encore dans 2 villages, s'est enfoncé dans le brouillard, où il a fondu et n'a plus été, allant sur des chemins en terre molle, au travers des bois, où une pomme de pin de temps en temps vous tombe sur la tête, et l'écureuil, dans le fin bout de l'arbre, tenant le fruit entre ses pattes, en arrache les écailles qui font un bruit de petite pluie. Et Besson a fait ainsi son métier, là-haut, là derrière, loin de nous, sans plus penser à nous, et comme nous ayant oublié, jusque vers les 5 ou 6 heures. Il change alors de direction, faisant un quart de tour sur lui-même, de sorte que de nouveau il se trouve tourné de notre côté. Il fait un pas, il en fait encore un. Il vient de laisser derrière lui une ferme où il est entré, ayant appelé dans le corridor à carreaux rouges, appelant « Hé ! Y a-t-il quelqu'un ?» Puis il s'est retrouvé dehors. Il a fait un quart de tour, puis il fait un pas, il fait un deuxième pas dans le bas de cette dernière pente qu'il remonte, et où il n'y a rien qu'une pauvre herbe grise et du brouillard. Mais il chasse le brouillard de lui avec ses bras. Et puis, c'est plus haut qu'il regarde. Là, des troncs espacés font comme une barrière, et on voit le ciel par les trous. Il s'est mis à dire à ce ciel « Deviens bleu !» Il chasse le brouillard avec ses bras, il le fait aller en arrière. Et alors, il a dit au soleil « Lève-toi !» Alors, la croûte blanche devant lui se défait, Elle s'écaille rapidement comme une peinture fatiguée. Par chacune des fissures, la lumière est venue dehors, tandis qu'il est encore dans l'ombre. Seulement, il monte, et sa tête d'abord a été dans le soleil, puis ses épaules ont été dans le soleil. Il a fait grandir devant lui le ciel, le tirant à lui de bas en haut. Il monte encore d'un pas ou deux, il a à présent du soleil jusqu'à la ceinture. Déjà tout le ciel qu'il peut voir est bleu dans l'illumination qui vient, et il le tire à lui d'en haut. Alors une montagne est venue, une montagne qui pend après. Il n'y a rien eu d'abord que cette corne blanche, parce qu'il commence par le haut. Blanche, blanche et bleue, comme toute neuve. Alors Besson a dit « Bon, ça va ». Et il avait encore une poussée, comme quand l'enfant grimpe à un mur. Il se trouve dans le soleil jusqu'au ventre, tandis que maintenant, il y a 2, 3, il y a 7, 8, 9 sommets et dessus de montagne, qui montent comme des ballons, et ont balancé, séparés encore, puis se sont rejoints, et ont été une chaîne sous la neige, sous de la roche bleue, sous de l'air, peinte là par lui, mise là par lui. Il a vu. Il jette un regard à droite et à gauche. Il a dit « Ça y est-il ? » Il a dit ensuite « Ça y est. » Il est comme quand on a écrit une belle première ligne de mots sur la page, parce que c'est par en haut qu'on commence à écrire. Mais le soleil lui monte jusqu'aux genoux. Il a été dans le soleil jusqu'aux chevilles, et il y a été tout entier. Il avance dedans en lui faisant faire des remous, en le traînant à l'une et l'autre de ses jambes, comme quand il y a une inondation. Il y a une épaisseur d'eau, comme le mineur dans la mine après qu'il a crevé la poche avec son pic. Il avance, il sort de la galerie, il va encore un bout à plat. Et la colonne des paniers s'est éteinte. Il n'éclaire plus. C'est lui qui est éclairé. Il n'est plus la lumière, car la lumière l'a quitté. La colonne s'est éteinte. La lumière qui est partie d'elle est maintenant partout, sauf sur elle. Et lui, sous sa hotte, ayant fait, contemple, comme s'il n'avait pas fait. Car la montagne entière était venue. Il y a eu tout le pays. Il y a eu tout le pays qui est fermé à cause des montagnes qui l'entourent. Il y a eu une terre particulière et séparée, et c'est une région du monde entre les autres régions du monde, avec une fin à elle, un commencement, et tout est contenu exactement dedans, sans qu'aucune chose en déborde. Comme dans une corbeille, comme dans une de tes corbeilles, les grandes à lessive, ovales, larges de fond. Le porteur de corbeille est devant la plus belle, la plus grande, où il a déposé le jour, et où il a rangé soigneusement tout ce qui va faire besoin aux hommes, parce qu'ils ont besoin de l'eau pour être au chaud. Alors tout le fond est en eau où on regarde. Lui a mis la main sous sa barbe. Il se tient arrêté à l'endroit où tout à coup le terrain casse, allant en bas d'un seul mouvement, d'une haleine, jusqu'au fond du trou. Lui se tient sur le bord au trou et voit venir, après la montagne, les eaux, avec leurs bateaux et leurs barques. Il se penche un peu plus en avant. Elles sont allées vers en haut. Alors est venu le côté d'ici. Alors vous êtes enfin venu. Étage où le bois blanc des échalas neufs scintille dans les jeunes vignes, et les vieux ont une couleur comme celle du rocher. Et son œil à lui, s'abaissant toujours, est allé d'un de ses degrés à un de ses degrés, de bas en haut, et puis de gauche à droite, et toute la suite qu'il y a vient à son tour. Et chacun des brins dont c'est fait, sur ce côté de la corbeille, au beau rebord faisant sa courbe. Les murs, et la suite des murs, avec leurs mailles et leurs nœuds, cet autre ouvrage de vannerie qu'il fait venir encore, puis il le laisse partir de lui et l'abandonne. Alors, tout part. Un homme sort ici, qu'on voit. Un autre sort un peu plus bas, sur cette marche, sur cette autre marche. Ils ont paru chacun sur son étage. Et le village vient plus loin, comme si on l'avait serré d'abord fortement dans ses mains. Autour, il lève les bras. Il lève le fossoir des deux bras, puis la batte, puis il se baisse. Et Bovard se baisse. Bovard plus en avant que les autres, et se tenant sur sa pointe de terre, au-delà de laquelle il n'y a plus rien que le vide, mais lui aussi. Il s'est dit tout à coup « Allons-y quand même !» Quelque chose leur a crié « Hardi !» à eux tous, comme si une voix qui ne fait point de bruit venait, et à Bovard aussi là-bas. Alors ils retrouvent leur force. Alors Bovard a levé les bras, il s'est baissé. Eux se baissent, et Bovard se baisse. Il prend par terre un échalas qu'il met debout contre la souche. C'est pour l'aider, la souche. Il retourne alors le fossoir, les dents en haut, et avec le dos du fossoir, il tape, et un autre tape. Bovard entend taper autour de lui, et partout le bruit vient, comme une réponse à une demande, comme si une conversation commençait, ou bien comme quand on chante, chacun disant son couplet. D'où Bovard se tient, il ne peut pas voir qui lui répond. Peut-être est-ce le mont lui-même à cause des échos qu'il y a. Est-ce le mont ou bien son plus proche voisin? Mais ça ne fait rien, puisque ça vient, du moment que ça vient. Parce qu'on est encouragé, on s'encourage les uns les autres, quand ainsi le mont tout entier commence à chanter, de haut en bas, d'un bout à l'autre. Bovard tout à coup s'est dit « Ça ne fait rien ». Il s'est dit « Allons-y quand même ». Et celui-ci plus loin qui part, et ce troisième, bien qu'ils ne puissent pas se voir les uns les autres, mais ils se parlent les uns aux autres, ils s'appellent les uns les autres, se faisant signe de proche en proche par le son, comme avec les notes d'un chant, comme avec les mots d'une phrase. Et lui, pendant ce temps, là-haut, qui regarde, et eux font. Et c'est comme si on avait sauté en avant d'un mois dans la saison. Cette tombée de soleil sur eux, il semble qu'on ait tourné le robinet à la sève, et il y a tous ces petits boutons qui crèvent, qui étaient gris, qui ont crevé, et deviennent roses comme des fleurs entre les murs. De haut en bas du mont, entre les murs passés au blanc de chaux, les murs gris et tachés de bleu, tachés de vert, tachés de jaune, sous le ciel vu seulement dans la seconde de ses moitiés, parce qu'il y a la paupière du mont sur l'autre. Et le bourgeon crève, il devient rose, il porte dehors la première feuille comme du miel. Tandis que là-haut, un regarde, et les autres font. Il lève le fossoir, il tape sur les échalas. Une grande conversation commence, une musique s'élevée entre les murs qui vous cuisent déjà le derrière à travers le drap du pantalon. On siffle pour faire tenir tranquille le lézard qui vient de sortir de son trou, traînant derrière lui sa longue queue, à côté d'une touffe de ruines de Jérusalem. Et devant vous, une barrière à claire-voie se fait avec le lac des barreaux de bleu entre ces barreaux à ailes, qui sont en bois gris. Chapitre 5. Et le lendemain matin, quand Besson est sorti, tout sort en même temps que lui. Voilà que le sonneur le rencontre, et la cloche manquait encore, parce que c'était un dimanche matin. Mais le sonneur a vite été dans le clocher où pend la corde, qu'il empoigne des deux mains. Il repousse partout les contrevents peints en verre qu'ils tiennent fermés contre la nuit. Ils ont fait grincer les espagnolettes. Alors les fenêtres ont ouvert les yeux sur de la vue ou sur point de vue, mais ça ne fait rien. Quelques-unes, c'est sur la plus étroite des ruelles où elles se font vis-à-vis à 2 mètres l'une de l'autre. Et monté de la vie, parce qu'un poète est venu, et il écrit autour de lui son livre. Il fait partir la cloche dans le ciel, il fait partir sur la terre les hommes, après qu'il les a posés là, et il a posé le pays. Dans la ruelle, c'est Congo qui est en train d'enrouler sa ceinture rouge avec ses mains roses, n'ayant pas pris le temps de s'habiller complètement avant de sortir. Et il n'a pas voulu déjeuner, parce qu'il a prétendu que le café n'était pas assez fort. du jus de chapeau. Le poète est venu, et Congo s'en va le long de la ruelle, ne disant qu'une seule chose, et toujours la même, qu'il pousse devant lui en même temps qu'un de ses pieds, puis l'autre. Et le poète qui est venu, et qui est là pendant ce temps, on ne l'a pourtant pas reconnu, et on ne sait pas qui il est. C'est simplement un homme parmi les hommes, un homme comme les autres hommes. On ne sait pas qui il est, et on ne l'a pas reconnu, ayant comme nous une blouse ou une veste de drap noir, avec une chemise empesée et un chapeau et une barbe, ayant des habits de semaine la semaine et le dimanche des habits de dimanche, ayant un travail comme nous. Et il y en a qui font des paniers, par exemple. Alors lui est arrivé avec ses paniers, et on a dit « C'est le vanier !» On a vu dans la ruelle Rose Bron, qui a 18 ans, mettre la tête à la fenêtre, puis elle a ri tout haut. Du jus de chapeau. Congo s'arrête, il voit qu'on le regarde, il s'arrête, il dit « C'est vrai, ça !» Il regarde vers Rose. Il tient ses mains l'une sur l'autre au-dessus de ses pantoufles tournées en dedans. « Comme je vous dis !» Et elle qui appelle sa sœur. « Hélène ! Hélène !» Sa sœur qui vient, alors elles ont été les deux à la fenêtre. « Qu'est-ce qu'il y a, Congo, voyons ?» Et elle rit tellement fort qu'un Maud Ruse qui habite la maison vis-à-vis se montre, et lui aussi « Qu'est-ce qu'il y a, Congo ? Salut !» Et à présent, partout, le monde sort sur le pas des portes, pendant que Congo ne comprend pas, ou peut-être qu'il est flatté. « Mais c'est pourtant vrai » a-t-il repris, hochant la tête. Et est reparti parmi les voix, pendant qu'on rit de plus en plus fort et qu'on s'appelle, allant en traînant les pieds dans la direction de la place qu'on voit, après un tournant, faire entre les maisons comme des planches de sapin neuf, mises debout, parce que c'est son côté d'en haut qu'elle montre, celui qui est tourné au midi, celui qui est en plein soleil. Besson est assis sous les platanes, comme d'habitude, mais aujourd'hui il ne travaille pas. Étant sur son mur, les genoux rejoints, le pantalon rendu visible par l'absence du tablier de serge verte, les doigts immobiles, les doigts vides, ou qui ne tiennent que la pipe par moment, quand ils vont la chercher à la bouche, puis l'y reportent. Alors, c'est un tout petit travail pour eux, un travail qui ne compte pas. Et il n'y a plus les osiers. Il n'y a plus les blancs, bien écorcés, ni ceux avec l'écorce, qui sont de deux espèces. Et il y a les jaunes et les rouges, et il n'y a plus les blancs, ni les jaunes, ni les rouges, ceux qui bougent, ceux qui sont empaquetés, ce qui se plie et s'entrecroise faisant des petits mouvements, et il se baisse, puis se relève comme sous le vent, en souvenir du temps où le vent venait sur eux. Ceux qui sont par terre, pas encore ressuscités, attachés ensemble, couchés dans la mort. Et il n'y a plus les osiers. Il n'y a que l'homme, assis sur le mur, qui cause, là, fumant la pipe, pendant que devant lui, on a vu le soleil venir. Et les façades se sont éclairées, qui sont étroites, peintes à la chaux, ayant 2, 3 étages, comme dans les villes, ayant 2 et 3 et même 4 rangées de fenêtres, avec un perron dans le bas, et dans le haut, coupant la ligne de l'avant-toit, sous un autre petit toit à aile, une porte, où pend une poulie servant à faire monter les sarments. Elles ont été touchées, ces portes d'en haut, les premières, et puis ça est descendu plus bas. On tire les rideaux. On tire les grands rideaux, les petits rideaux. Ils tirent les petits rideaux de devant les vitres, lesquels sont allés en arrière, jetant tout à coup un feu blanc, comme si on vous tirait dessus. Lui, assis sur son mur, et c'est devant lui, en face de lui, sans qu'il bouge, ni fasse rien, que ça se fait, disant seulement de temps en temps un mot dans sa barbe, ou lâchant une bouffée de fumée qui vient lentement dehors avec son bleu par une quantité de petits trous. Ça se fait, là, devant. Ça se fait quand même.